Directeur Jules Radio Insolite, bonjour à tous et bienvenue. Content d'aller faire un tour dans le plat pays, nos amis belges. Salut Karine.
Oui, salut Alain. Ben ici, ce n'est pas vraiment le plat pays, hein.
Bah,
C'est plutôt le pays noir.
ah bah écoute, moi je sais pas, moi Jacques Brel il disait toujours le plat pays, alors c'est pour ça.
Ah oui, parce que, il relatait le pays de Flandre, la région flamande.
Ah oui, alors que
Ici, nous
là,
sommes
là on n'est pas au même
en
endroit là.
Wallonie, donc nous sommes en Wallonie, en plein cœur de Charleroi, donc c'est le pays noir, vraiment.
D'accord. Et c'est peut-être pour ça que t'es habillé tout en noir?
Non, pas nécessairement. C'est une couleur que j'aime bien. Et puis voilà.
Dis-moi, on va parler d'un concours. Alors.
Donc, c'est un concours organisé par Christine Brunet, qui gère le blog Aloïs. Donc, c'est un blog par lequel elle diffuse principalement tous les événements des auteurs des éditions Chloé Delisle. Leurs publications, des extraits de leurs bouquins, leurs interviews, etc. Et plusieurs fois par an, Christine, qui est une fille très dynamique, qui est auteure de romans policiers pour le rappeler, Christine organise, pour les auteurs de Chloé Delisle, organise des petits concours d'écriture, tu vois. Et donc, cette fois-ci, le thème, c'était catastrophe.
Ah,
Et le
carrément.
sous-thème, c'était les extraterrestres débarquent.
Ah bah. Bon, ça y est, ils ont débarqué, c'est bon.
Ben écoute, ils sont là. Ils sont là, donc voilà, je vais bientôt aller ouvrir la porte parce que ça commence à bien faire.
Justement, le principe y a chaque fois un thème différent.
Oui.
Catastrophe, bah écoute, pourtant,
Oui.
j'allais dire, tout le monde, il est beau, tout le monde est gentil en ce moment. On ne vit que des moments merveilleux.
Oui, exactement, mais enfin, bon, voilà, les extraterrestres. On pouvait, ça on va l'entendre, on pouvait ajouter une pointe d'humour. Hein, mais dans le premier texte, il n'y a pas beaucoup d'humour. Hein.
Non, bon, on va commencer par toi, ok? Parce que tu as participé.
Oui, et en fait, le sous-thème ici, ce n'est pas les extraterrestres. Hein,
Bah, justement.
ça. Ouais. C'est sur les catastrophes, voilà, en
D'accord.
fait.
Alors, ça s'appelle
Voilà.
l'éveil, si je dis pas de bêtises.
Voilà le premier texte qui s'appelle L'éveil. Est-ce que je dois citer le nom de l'auteur?
Eh ben, écoute, au premier abord, oui.
Ah, bon. Donc L'éveil de Karine Laure Degain.
De qui?
Ben. C'est une petite drôle qui habite du côté de Charleroi en Belgique.
Qu'est-ce qui t'a inspiré quand t'as fait... Alors justement, on parle de catastrophe et toi tu parles d'éveil. Bon, ouais. Qu'est-ce qui t'a inspiré en faisant ce
Ben oui,
texte?
ben justement, il faut bien écouter le texte et voilà,
Bon ben...
on verra, on entendra de quel éveil il s'agit.
Eh ben allez, vas-y, c'est parti, on t'écoute.
Voilà, donc l'éveil. Et depuis votre dernière visite, Madame Glanz, tout s'améliore, je vous écoute. Aucune amélioration, aucune, docteur Lirtz, je lui ai répondu. Je pense même qu'il y a une aggravation. Si j'avais objectif ou pas, c'est compliqué. Et je me braque sur mes symptômes, c'est humain. Je ressens des douleurs dans les membres, et lorsque je ne peux freiner les espèces de chatouillements que vous nommez prurites, cela devient vite infernal. On dirait que mes membres pourrissent de l'intérieur, j'ai ajouté. Je comprends, je comprends. Vous avez bien appliqué le traitement 2 fois par jour, comme je vous l'avais proposé? Oui, comme vous me l'aviez dit. Le pharmacien devait vous contacter. Il s'étonnait du dosage de la chlorthymétamine à introduire dans la pommade. Et d'ailleurs, il ne connaissait pas ce médicament, la chlorthymétamine. Sur Google, ce nom est également inconnu. C'est un médicament très ancien. Pour éviter tout malentendu ou attente inutile, je vous ai préparé moi-même les autres flacons qui contiennent ce produit-là. Et aussi votre nouveau traitement. Car depuis notre dernière visite, les résultats de la biopsie me sont parvenus, ainsi que les bilans sanguins. Avez-vous des troubles respiratoires, comme par exemple une toux ou des expectos à l'aspect douteux? Non, pourquoi je devrais? J'ai encore observé ces espèces de cloques sur les bras et les jambes, ainsi que sur mon torse à présent. Vous êtes une sommité en matière de pathologie dermatologique. Vous trouverez une solution à tout ça. Je reste confiante, j'ai lâché. Vous êtes très positive, madame. Ben, c'est obligatoire dans mon cas. Je dois cependant vous annoncer que si malgré ce traitement, vous n'avez pas d'amélioration, une hospitalisation sera nécessaire dans ma clinique privée. Ben, je ferai ce qu'il faut, docteur. Le matériel de ma clinique est performant, mon laboratoire également. Et j'ai une totale confiance en mon personnel. Ce sont des médecins qui viennent de toute la planète. Et rassurez-vous, les soins sont gratuits. De toute la planète, des soins gratuits? Comment est-ce possible? Je reçois des subsides du gouvernement. Ma clinique est donc privée. Mais vous comprenez, pas tout à fait. Depuis quelques semaines, des personnes développent des maladies inconnues qui se caractérisent souvent par des symptômes comme les vôtres, ou bien pire encore. Content de n'être pas la seule, je lui ai répondu, intriguée et avec des trémolos dans la voix. « Dites-moi, Madame Glantz, vos dernières vacances, c'était en su... » Oui, oui, je vous interromps, mais oui, je me souviens, rassurez-vous. Je voulais vous redemander, vous vous êtes baignée souvent, plusieurs fois par jour. C'est là-bas que les douleurs ont commencé. Et pour les cloques sur l'épiderme, j'avais même pensé à une allergie alimentaire, mais non, impossible. « Pourquoi donc, docteur ?» j'ai demandé. Eh bien voilà, je vous dois la vérité, ou tout au moins ce que je peux vous en dire. Je vous écoute, j'ai dit, remué par ces sous-entendus. Ben, dans les glaciers sommeillaient de vilaines bestioles, très vilaines même. Et depuis la fonte de certains glaciers, des virus endormis se sont réveillés. Voilà, Madame Glantz, voilà, ces bestioles à présent s'éveillent. Enfin, bon, je ne peux pas vous en dire plus.
Waouh! Oui, c'est une catastrophe.
Ça démarre fort. Hein.
Là, ça attaque fort, oui. C'est pas mal. Bon, texte suivant, le numéro 1.
Le numéro 1. C'est un texte de Micheline Bolland, donc toujours sur le thème catastrophe climatique. Fait divers. Chez le bijoutier dans la grande rue du village, en ce début du mois de juillet, le thermomètre affiche plus de 40 degrés depuis plusieurs jours. À la supérette, sur la place de l'église, il n'y a plus une bouteille d'eau à vendre. Et la plupart des limonades sont en rupture de stock. Le village est gagné par un ralentissement inhabituel des activités. Les animaux domestiques paraissent comme engourdis. Les rares passants avancent mollement. L'herbe est rousse, les fleurs fanent. Les jardins font profil bas. Dans les magasins de la ville voisine, il n'y a plus un ventilateur, il n'y a un climatiseur à pouvoir acheter. Et la clinique a fait le plein de patients. Des personnes âgées sont décédées et d'autres sont au plus mal. Chaque jour est un jour en enfer. La touffeur est telle que chaque geste exige un effort à peine inimaginable. La sueur ruisselle sur les fronts. Les mains et les pieds sont moites. Aucun souffle de vent ne permet de se rafraîchir. Le soir, le sommeil tarde à venir, l'air est lourd, les pensées sont paresseuses, on se met à rêver d'une pluie fine et froide. Les effets de la fatigue et du mal-être sont bel et bien visibles. Pour un rien, la mère gronde son enfant, le mari abreuve son épouse de reproches et l'épouse se fâche. Pour un rien, le patron menace l'ouvrier de renvoi et le client houspille le vendeur. Pour un rien, le curé et le médecin perdent leur calme habituel. Le maire critique sa secrétaire, la coiffeuse soupire. Le garçon de café mémorise mal les commandes et il arrive que le serveur renverse la corbeille de pain, des couverts ou des plats. Le ton monte entre copains. Quelque chose va arriver, on le pressent, on le redoute. C'est écrit dans le ciel trop bleu, dans la terre trop sèche, dans les verres trop vite vidés. 15h, Jean-Paul tue Jeannette, son amoureuse, d'un coup de couteau, parce qu'elle l'a envoyé paître en des termes violents. 16h30, Mauricette bouscule sa vieille tante qui réclame un énième verre d'eau fraîche. La vieille dame perd hélas l'équilibre et se fracture le crâne. 18h, Clémentine pousse sa fille qui pleurniche. La gamine tombe dans l'escalier et souffre de multiples blessures. 20h13, Kevin assassine une voisine dans le seul but de voler les 3 ventilateurs qu'elle possède et refuse de lui prêter. Plusieurs choses graves sont ainsi arrivées dans le joli village, dans le joli et paisible village de mon enfance, jusqu'au terme de la canicule. ailleurs dans le pays, les comportements violents ont été également très nombreux. Un psychologue interrogé par un journaliste n'en fait pas mystère. Il s'agit de conséquences du réchauffement climatique. Exaspération et intolérance sont, selon lui, les fruits des périodes très chaudes que nous vivons cet été. Déjà, des voix s'élèvent. Comme de tels étés seront donc de plus en plus fréquents, il faudrait construire de nouvelles prisons, de nouveaux hôpitaux, rendre obligatoires des stages de communication non violents. Déjà, on prévoit une augmentation importante du nombre de divorces et de conflits entre employés et employeurs. Les années qui viennent devront être soumises à des mesures fortes à prévoir de toute urgence, proclament des hommes politiques de tous bords. Des choses graves, des choses de plus en plus graves arriveront sûrement partout sur la Terre. C'est ce qui se dit, c'est ce qui se lit, c'est ce que l'on imagine.
Karine Landéguin qui nous lit tout simplement les textes qui ont participé au concours Catastrophe du blog Aloïs. Dit Karine Laure, c'est plus facile d'écrire que de lire.
Pourquoi? Oui, parce que, comme tu peux le remarquer, ma voix n'est pas terrible.
Ta voix est ta voix, voilà. Tu y mets des intonations, ce qui n'est pas intéressant. Mais quand on écrit, on écrit juste pour être lu, on écrit pour soi, on écrit pour quoi?
Au départ, on écrit pour soi, c'est après, je pense, qu'on pense à une publication. Au départ, on ne pense pas toujours que le texte qu'on écrit sera publié parce qu'on se dit peut-être qu'aucun éditeur n'accrochera ou est-ce qu'à la fin mon texte sera bon, est-ce que je l'achèverai, donc voilà quoi.
D'accord. Le concours, Aloïs, le concours avec le thème catastrophe, on en est au texte numéro 2.
Donc le sous-thème c'est donc... catastrophe climatique. Voilà. Ici, c'est le texte 2, Au bord de la mer, un texte de Philippe d'Esterbeck. Quand j'étais petit, je passais toutes mes vacances chez mes grands-parents et j'adorais ça. Mes aïeuls habitaient à moins de 1000 mètres de la mer et j'allais la voir tous les jours qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Enfin, il ne neigeait quasiment jamais chez eux. Je ne pouvais pas me passer de cette immense étendue d'eau bleue. D'eau tantôt bleue, tantôt grise, selon la couleur du ciel. C'était comme une drogue. J'avais besoin de me perdre au loin, à l'horizon, là où le ciel rejoint la mer. Je m'asseyais sur un rocher et mes yeux se perdaient dans le lointain. J'inventais un peuple qui habitait là-bas sur la ligne où le soleil se couchait chaque soir, à des heures différentes, s'amusant à faire diminuer la longueur du jour au fur et à mesure. On s'enfonçait dans l'été pour rejoindre l'automne. Le matin, très tôt, j'arpentais la plage avec mon grand-père à la recherche de coquillages, d'étoiles de mer ou autres cadeaux laissés pour moi sur le sable par la mer qui s'était retirée. Des mouettes et des goélands se disputaient les restes de repas laissés par des touristes peu scrupuleux. Des joggeurs matinaux laissaient leurs pas dans le sable mouillé. De temps en temps, un tracteur venait ramasser les algues que la mer avait vomies sur la plage. Des bateaux voguaient sur les vagues et je rêvais de paysages lointains. Un jour, je serais marin. C'était décidé. Parfois, mon grand-père m'emmenait sur les îles lointaines, celles colonisées par des oiseaux. Mon pépé était un ornithologue averti. Et gare à moi si je mettais un pied de travers, si par inadvertance, j'avais marché sur un nid de fous de Bassan ou de Guillemot. Mon grand-père me tirait alors en arrière et je ne pouvais plus lâcher sa main. Combien de fois ai-je assisté à des naissances de pétrels ou de puffins fuligineux? C'était à chaque fois un merveilleux spectacle que Dame Nature m'offrait là, le miracle de la vie. Je rentrais chaque fois chez mes parents, des souvenirs plein la tête, et déjà je pensais aux prochaines vacances au bord de la mer. Puis j'ai grandi. Je n'ai plus passé toutes mes vacances dans la station balnéaire où habitaient mes grands-parents. Je passais quand même de temps en temps leur dire bonjour. Et ça ne manquait pas, à chaque fois mon grand-père m'emmenait sur la plage de mon enfance et je m'y trouvais bien. Mais un jour, il n'y a plus eu de plage. La mer avait avancé jusqu'à la route située un peu à hauteur de ce qui n'était plus mon terrain de jeu. Et mes îles, ces refuges merveilleux pour les oiseaux marins, où étaient-elles passées? Plus une seule ne dépassait le niveau de l'eau. D'ailleurs, des oiseaux, on n'en voyait plus du tout. Ils avaient migré ailleurs, dans un monde meilleur pour eux, là où la mer gourmande n'avait pas tout englouti. J'avais, comme tout le monde, entendu parler de réchauffement climatique, de fonte des icebergs et de l'élévation du niveau de la mer. Mais je n'y avais pas fait plus attention que vous. L'avenir apocalyptique que certains nous prédisaient me laissait froid, et je n'ai rien fait pour le changer, pour éviter le pire. Je m'en suis rendu compte quand, quelques années plus tard, la mer ne se trouvait plus à 1 000 mètres de la maison de mes aïeuls, mais à moins de 500 mètres. L'eau avait monté, avait escaladé le mur de pierre qu'il avait toujours retenu prisonnière pour se répandre dans les rues. Les beaux hôtels, les maisons de riches, les immeubles de charme avaient tous été engloutis par la force de la mer, par sa furie, par sa vengeance envers les êtres humains. Aujourd'hui, que mes grands-parents ne sont plus de ce monde, je me rends parfois en pèlerinage dans ce petit village côtier que j'affectionnais tant. J'y emmène mes enfants, je leur montre de loin l'endroit où se trouvait la maison de leurs arrière-grands-parents. En contemplant que quelques dizaines d'années auparavant seulement, à l'endroit que je montre du doigt, poussaient les roses qui faisaient la fierté de ma grand-mère, ou les légumes que mon grand-père cultivait et que mémé préparait de mille et une façons pour le plus grand plaisir de mes papilles. Heureusement, le cimetière est situé sur une hauteur du village, et même si les vagues commencent à lui lécher les pieds, il conserve les corps de tous les habitants qui ont connu une mer inoffensive et si belle. J'emmène mes enfants et je leur raconte l'histoire de ce village de pêcheurs qui n'existe plus, de cette station balnéaire qui a perdu tous ses touristes, de cette plage qui m'accueillait chaque jour des vacances, qui m'a offert mes plus belles joies d'enfant et m'a laissé mes plus beaux souvenirs. Souvent, des larmes coulent le long de mes joues. Elles suivent les rigoles qui traversent mon visage pour s'infiltrer entre mes lèvres. Elles sont salées comme l'eau de la mer. Voilà.
Le concours du blog Aloïs, le concours avec tout simplement le thème catastrophe. Est-ce qu'on écrit de la même manière quand on écrit pour un concours et quand on écrit comme ça pour soi?
Ah, je n'ai pas entendu ta question.
Est-ce qu'on écrit de la même manière quand on écrit pour un concours ou quand on écrit pour soi?
Ah non, pas du tout. Du tout, du tout. En fait, moi, j'aime bien participer au concours. Justement parce que je peux me lâcher complètement, en fait. Donc, j'écris souvent des bêtises ou voilà, c'est une façon de considérer que ce texte-là est un mini laboratoire et
Ouais.
est-ce qu'il va plaire ou pas, en fait, c'est ça.
Ah, c'est surtout ça, oui.
Donc, exactement la même observation. Quand j'ai écrit pour des revues, par exemple. Quand j'écris pour des revues, j'aime bien d'essayer des choses, en fait.
D'accord,
Voilà, je sais pas.
c'est surtout le fait que ça permet d'avoir un thème particulier, parce que je suppose que quand tu écris suivant l'envie du jour.
Oui, c'est ça. En fait, quand il y a un concours, il y a souvent des contraintes. Donc, c'est une façon de pouvoir se plier aux contraintes. Et c'est parfois des thèmes auxquels on n'aurait pas pensé pour écrire spontanément, quoi. Par exemple, ce thème, si catastrophe, avec le sous-thème climatique, catastrophe climatique, jamais je n'aurais eu l'idée d'écrire un texte sur une catastrophe climatique, jamais.
D'accord. Ok. On continue toujours encore. Il reste le 3 et le 5, et pile gagnant, donc le 6. On y va sur le 3,
Donc,
un nouveau monde?
le texte 3, donc Un nouveau monde, un texte de Séverine Basis. Comme tous les matins, je n'ai guère envie de me lever. Et comme tous les matins, maman surgit dans ma chambre avec sa fureur, ses insultes et sa canne prête à se fracasser sur mes draps. Je me lève et me faufile dans la salle de bain. Le climatiseur souffle en sifflant. Il fait déjà 25 degrés à l'intérieur et 50 à l'extérieur. Non, maman, ce n'est pas ma faute. Enfin, je ne suis pas le seul responsable. Depuis que la canicule fait rage et que le plan de survie a été mis en place, il y a déjà près de 10 ans, maman déverse sa colère sur la seule personne qu'elle croise, moi. Elle qui était l'incarnation même de la douceur. Avant de quitter l'appartement, Mon regard se perd à travers la fenêtre du salon, celle devant laquelle maman reste assise toute la journée. Dehors, une ville désertique, rongée par la chaleur. Les bitumes brûlent en bouffées suffocantes et les fissures lézardent les façades. Au loin, la forêt de mon enfance n'est plus qu'un cimetière de souches. Un oiseau gît au sol. Oui, maman, j'y vais. Nous sommes le premier samedi du mois, jour de réapprovisionnement. J'enfile mes chaussures aux semelles de métal. Je respire à fond et je sors de l'appartement, de l'immeuble. D'un coup, d'un seul, la masse chaude m'ensevelit. Puis elle me saisit la gorge et s'agrippe à mes membres. Quelques pas suffisent à me couvrir de sueur âcre, à embrumer ma vue et à accabler le moindre de mes gestes, jusqu'à ce que j'entre et m'assoie dans le tramway, seul véhicule à pouvoir encore circuler en ville. L'aide alimentaire, les sachets d'aliments lyophilisés. Notre survie ne tient plus qu'à cela. À cela et aux climatiseurs que d'autres pays n'ont déjà plus. La population africaine est décimée, comme une grande partie de l'hémisphère sud. La canicule aura raison de nous tous. Chaque nuit, je fais ce cauchemar. Chaque nuit, je sais que c'est bien plus qu'un mauvais songe, un horizon.
C'est original parce que... Pour le concours, là, est-ce qu'il y avait un cahier des charges? Parce qu'il y a des textes qui sont longs.
Je ne t'entends pas, là.
Je disais, pour ce concours, là, est-ce qu'il y avait un cahier des charges précis à respecter? Parce qu'il y a des textes qui sont longs, il y a des textes qui sont plus courts.
Écoute, oui, en fait, il y avait une contrainte de longueur. J'ai fait exactement la même réflexion que toi. Mmh. Et en fait, il y a des auteurs qui ne respectent pas cette contrainte.
Contrainte de longueur, c'est-à-dire, c'est en termes de mots, en termes de taille de
paragraphe. Christine, ici, avait donné en termes de pages, je crois.
D'accord. Mmh. À quoi ça sert de faire un concours? Ça permet de gagner des cadeaux? Ça permet de gagner en notoriété?
Écoute, oui, c'est une façon de se faire connaître. Mmh. Et comme je te disais, parfois, l'auteur se lâche et donc se confond dans un thème qu'il n'aurait pas choisi lui-même. Donc, c'est une performance pour l'auteur. Mmh. Et pour le lecteur, c'est une façon de voir une autre facette de l'auteur. Et alors, le gagnant, bien souvent, a son texte publié dans la revue Les Petits Papiers de Chloé, une revue trimestrielle éditée par les éditions Chloé Delis. Mmh. Donc, l'auteur qui gagne sait qu'il sera lu par un grand nombre de lecteurs.
D'accord.
Alors, chaque texte qui participe passe sur le bloc Aloïs, qui est un texte, un bloc qui est beaucoup lu, en fait. Hein. Donc, Christine a une notoriété. Enfin, le bloc de Christine a une grande notoriété. Voilà, ce que j'en sais.
D'accord. J'ai une colle. On est en Belgique, là?
Oui.
Mais Christine n'est pas en Belgique?
Non, Christine n'est pas en Belgique. Christine est française et habite, est-ce que je vais le dire, la région de Marseille.
Exactement, tout à fait. Et alors, c'est original parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de Belges qui la suivent. Peut-être que c'est comme ça fait 20 ans. C'est ça
en fait, Christine fait partie de l'équipe des éditions Chloé Delis.
D'accord.
Donc, voilà, c'est ça le départ de l'histoire. Elle a été éditée aussi chez Chloé Delis, mais elle fait partie intégrante de l'équipe. Elle est vraiment membre de l'équipe.
D'accord.
Okay. Moi, de temps en temps, mais Christine, tout le temps. 24 heures sur 24.
D'accord. Bon. Il fait toujours beau de ton
Moi,
côté.
Moi, c'est sporadique. Hein,
Oui, tout à fait. Il fait toujours beau, quand même, de ton côté.
Écoute, là, je regarde par la fenêtre, le soleil, si on peut dire. Non, le jour se lève et c'est la pluie. Hein.
Ah, mais justement, moi, j'aimerais bien éviter le texte 5, parce que le texte 5, le thème, c'est l'attrait de la pluie. Moi, la pluie, ben non, j'ai pas envie. J'ai envie que le soleil brille, qu'il fasse 30 degrés et qu'il fasse beau.
Ouais, mais bon, voilà, ici c'est la pluie, c'est la grisaille, et voilà, le froid qui arrive tout doucement.
Voilà. Ouais. Voilà. Texte 5, l'attrait de la pluie.
Voilà, texte 5, l'attrait de la pluie, un texte de Brigitte Anap. Brigitte Anap, qui est une autrice belge, qui habite la région de Binche.
Où il y a un très beau...
Binche, le carnaval.
Voilà, j'allais dire, il y a un très beau carnaval.
Voilà. Elliot s'ennuie. Il regarde par la fenêtre et lorgne avec envie la petite rivière qui serpente entre les saules pleureurs. Il imagine le contact froid de l'eau trouble sur sa peau et peut-être même le frétillement tactile des petits poissons qui y vivent. Et Elliot soupire. Il aimerait tant profiter du jardin pendant ce week-end de vacances. Le chalet qu'ils ont loué dans la Somme est entouré de verdure à profusion. De nombreux cours d'eau sillonnent les prairies, faisant la joie des pêcheurs. Elsa, de son côté, s'ennuie aussi. Elle avait envisagé de se ressourcer le moral par de belles promenades, de gonfler ses poumons d'air champêtre, mais le soleil semble fâché avec la nature. Et il projette sur la terre ses impitoyables rayons brûlants. En cette fin de septembre, la chaleur est anormalement pesante. Il fait tellement chaud que bouger devient une torture. La température extérieure en est presque intenable. Et les corps n'aspirent qu'au souffle des ventilateurs qui fonctionnent avec intensité à l'intérieur des bungalows. Au lointain, quelques nuages gris-perles semblent prendre forme dans l'azur métallique du ciel et apportent l'espoir d'une averse rafraîchissante. La femme regarde Elliot avec tendresse et sa main se tend avec douceur vers la petite tête pour redresser la mèche touffue qui lui retombe invariablement sur les yeux. Mon bébé adoré, maman va terminer ses messages sur Facebook et puis c'est promis, je jouerai un peu avec toi. Et Elliot se renfrogne, vexé. Il n'est plus un bébé depuis longtemps, il a 4 ans quand même. Et puis, il se doute bien qu'une fois connectée sur son smartphone, elle oubliera sa promesse. Elliot patiente, le nez collé à la vitre. Soudain, une goutte humide et silencieuse s'écrase mollement sur le sol de la terrasse. Quelques autres suivent dans un mouvement ralenti et un pinceau transparent semble peindre le ciel de couleurs sombres. Les arbres sont statiques comme paralysés par une force indécelable. Pas une feuille ne bouge, mais il pleuviote. La jeune femme se détourne de son écran. Elle ouvre la porte pour scruter l'horizon sans remarquer qu'Elliot en profite pour se faufiler discrètement. Elliot jubile. La pluie devient plus bruyante, émettant des plic-plocs rigolos. Sortir sa langue pour attraper l'eau qui tombe est tellement amusant. De grosses flaques stagnent plus loin. Et quel plaisir d'aller sauter dedans. Vive la liberté! Et le yacht s'éloigne pendant que les nuages grondent et prennent des formes menaçantes. Il pleut des cordes et Elliot s'imagine sous la douche. La rivière déborde déjà, formant un va-et-vient de vaguelettes. Ce phénomène l'impressionne. Persuadé que le cours d'eau va se transformer en océan, des sirènes sortiront-elles des flots pour chanter leurs comptines envoûtantes? La nature s'emballe soudain. Les nuages se battent entre eux, entonnant leur colère. Les saules maltraitent leurs branches en les brinque-ballant de gauche à droite. Les précipitations grossissent en avalanches de grêle. Elliot tremble de peur. Il veut rebrousser chemin quand le sol se dérobe sous lui. La terre semble se liquéfier, se trouer, et des bras invisibles l'entraînent dans des eaux tumultueuses. Il aboie sa détresse en poussant des gémissements aigus. Ses petites pattes s'agitent à la recherche d'un appui. Son museau se convulse de terreur. Ses poils dégoulinent et l'alourdissent. Mais la rivière déchaînée ricane. En se dilatant, elle s'est gonflée de méchanceté et engloutit le petit chien. Un hurlement désespéré s'échappe du chalet. Affolée, sa maîtresse crie: Au secours! Aidez-moi à retrouver mon chien. Il s'appelle Elliot et c'est un Westie blanc. À l'extérieur, la pluie inonde la région et à l'intérieur du pavillon de vacances, les larmes d'Elsa inondent le plancher.
Bah dis donc, hein, ça donne envie de sourire, hein, tous ces textes-là. C'est...
Bah écoute, me faire lire des textes comme ça, catastrophe à 7 h du matin, cher Alain, si j'ai le moral après, ben franchement, c'est que j'ai vraiment du tempérament.
Ben non, mais c'est original. On aurait pu prendre le thème de Noël, par exemple, non? À moins qu'il y ait un concours au mois de décembre, parce que là, on est encore fin novembre. Non, on est le
Je
1er
pense pas
décembre,
que
pardon, j'ai une
Christine.
bêtise. Oui, vas-y.
Je ne pense pas que Christine aurait pris comme thème Noël. J'ai
Bah,
pas l'impression.
pourquoi? C'est joli Noël. T'as les cadeaux, le
Oui,
sapin.
mais je ne sais pas. Oui, d'accord, mais Je ne pense pas. Donc, ici, nous sommes dans. Depuis cette année-ci, nous sommes dans les catastrophes. Il y a eu les extraterrestres des barques. Ici, c'est les catastrophes climatiques. Et le prochain, qui arrive bientôt, je ne sais plus.
Oui,
C'est toujours catastrophe, mais le sous-thème, je ne le connais plus.
D'accord. Bon, le dernier. Alors le dernier, attention, il porte bien son nom et puis surtout, ah, il est bien détaillé celui-là. Il y a eu un comité qui s'est réuni. Comment ça s'est passé pour décider quel était le texte qui gagnait?
En fait, quand les textes paraissent, un texte chaque jour, pendant 6 jours, donc le nom de l'auteur n'est pas connu.
D'accord.
Et donc, on lit les textes chaque jour. Et après la diffusion du sixième texte, enfin, du dernier texte, on vote pour un texte, en fait. Et
D'accord.
c'est celui qui a le plus de votes qui gagne.
D'accord. Ok. Donc c'est l'inspiration et ah oui, le fait que l'auteur soit pas connu, ça laisse le côté entre guillemets un peu neutre.
Oui, il faut que le texte reste anonyme. Oui, ça oui.
D'accord.
Ça, je suis bien d'accord avec Christine.
D'accord. Ok. Bon, eh ben, c'est le gagnant, donc.
C'est le texte gagnant.
Et alors, là, il a un titre inspirant, on va dire.
Cauchemar climatique.
Mon Dieu.
Alors, quelques mots sur l'auteur. Il s'agit de Christian Eclomat. Qui est un auteur, bien sûr, des éditions éditées chez Chloé Delisle, mais c'est un auteur de science-fiction.
Ah oui, donc les extraterrestres, cauchemar climatique, c'est tout à fait dans son domaine, là.
Oui, c'est ça. Oui. C'est un auteur de science-fiction. Et voilà, j'invite tous ceux qui aiment la science-fiction à lire les livres de Christian Eclomat, franchement.
Ok, allez, tu te lances?
OK? On y va. Cauchemar climatique. Je lève la tête en plissant les yeux afin de filtrer la lumière en provenance de la surface du dôme, éblouissant sous le soleil à 7 heures de la journée. Un soleil qui, réchauffant temporairement les rues de la ville par effet de serre, aurait bien du mal à m'éviter de mourir gelé si je décidais de pointer mon nez à l'extérieur sans équipement spécial. Même convenablement protégé du froid glacial, il est d'allure dangereux de sortir sans précaution, surtout seul et non armé. Les ours polaires et les loups règnent en mer, et, en dépit des troupeaux de rennes sauvages et de bœufs musqués qui leur offrent des proies abondantes, ils n'hésitent pas à s'attaquer à toute espèce vulnérable, et l'homme en fait partie. Je décide d'aller faire mon petit tour quotidien au sommet de l'observatoire, là où le dôme hémisphérique atteint sa plus grande hauteur. De là-haut, la vue est magnifique sur 360 degrés, non seulement sur les édifices de la cité et ses jardins, mais aussi, parce que le regard porte très loin, sur la moraine du gigantesque glacier et l'immense étendue de la toundra qui s'arrête aux rives de la mer gelée. En attendant l'arrivée de l'ascenseur qui m'emmènera à toute vitesse jusqu'à la plateforme d'observation, je passe en revue de mémoire le petit résumé que j'aurai à présenter dans quelques jours à mon professeur d'histoire. L'histoire, une matière qui m'a toujours passionnée, depuis l'école primaire et même depuis bien avant, quand mes parents ont commencé à me parler de ces temps lointains où les arbres formaient de vastes forêts et où les fleurs tapissaient de vertes prairies. Une époque et une manière de vivre qu'ils n'avaient évidemment pas connue, mais qu'ils savaient si bien raconter. Avec ce mélange de nostalgie et d'enthousiasme, provoqué par ces vieilles vidéos qu'il regardait à longueur de journée. Enfin, lorsqu'il n'était pas de service dans un des vastes souterrains où l'on produisait, sous lumière artificielle, tout ce qui était nécessaire à la vie de la communauté. Tellement convaincant que je m'imaginais sans effort en train de me rouler dans l'herbe folle, sous une douce chaleur, ou de batifoler dans l'eau tiède avant de m'allonger sur le sable humide pour contempler le bleu du ciel, avec ses petits cumulus blancs dérivant lentement au-dessus d'un monde sans limite, un monde où personne ne passait la majeure partie de sa vie dans une prison de verre. Ah oui, mon petit résumé. Pas très difficile pour un passionné comme moi de rappeler les causes de la nouvelle glaciation, la dégradation de la biosphère qui a suivi, parallèlement au déclin de la civilisation et jusqu'à la quasi-disparition d'Homo sapiens. tout ça en 2 siècles à peine, malgré l'optimisme des scientifiques de l'époque qui, se voulant rassurants à propos des conséquences de leurs propres erreurs, ne pouvaient croire à une évolution aussi rapide des conditions de vie sur Terre. Ces personnalités trop médiatiques qui, avides de financement et de notoriété, publiaient des rapports de plus en plus alarmistes sur le changement climatique entraîné par l'augmentation moyenne des températures, et en étaient arrivés en usant de leur influence à préconiser obtenir la mise sur orbite de gigantesques boucliers destinés à réfléchir les rayons du soleil. Sauf que ces mêmes scientifiques avaient apparemment oublié qu'en matière climatique, la planète avait toujours été sur une lame de couteau et qu'en raison de la nature chaotique du système atmosphérique, un refroidissement, même très relatif, mais pendant plusieurs années de suite, pouvait nous faire basculer par effet de boule de neige dans un processus global irréversible, un refroidissement carabiné en l'occurrence. Tiens, en parlant d'aléas climatiques, je m'aperçois tout d'un coup que le soleil a disparu et que les lampadaires, comme toujours lorsque baisse la luminosité, se sont automatiquement allumés. Même s'il est vrai qu'il peut arriver que le temps change vite, à l'extérieur s'entend, car à l'intérieur, du point de vue de la température, c'est un éternel printemps, la chose m'étonne un peu. Un léger chointement m'avertit de l'arrivée de la cage d'ascenseur. Je pénètre dans la cabine transparente, en saluant les 3 personnes qui en sortent. Des gens à l'air maussade, comme tous les gens que je connais. Moi-même, d'ailleurs. Comment pourrait-il en être autrement? Je presse le bouton et m'envole vers le toit du dôme, observant comme à chaque fois, avec une certaine inquiétude, les quartiers de la ville rétrécir de plus en plus vite sous mes pieds, jusqu'à rassembler une maquette aux dimensions impressionnantes. Arrivé en haut, le ciel s'est encore assombri et j'éprouve une drôle d'impression. La sensation d'avoir carrément la tête dans les nuages denses, sans autre visibilité que de vagues remous tout autour de moi. Plus de gigantesques éclairs déchirent cette épaisse grisaille. Je n'entends rien en raison de l'insonorisation de notre bulle géante. Mais je sais évidemment qu'il tonne. Un bel orage en vérité. Dans ces conditions, prolonger ma présence ici n'offre plus aucun intérêt et je m'apprête à redescendre quand un terrible fracas se fait entendre. Un claquement sec et un bruit de verre brisé. Puis un froid glacial qui me tombe sur les épaules. Le dôme, mon Dieu, je hurle, je tremble de froid et de peur. On me secoue, on tire sur ma couverture, on me crie dans les oreilles. C'est mon épouse furieuse qui me reproche d'avoir une fois de plus négligé de bien fermer la fenêtre qui vient de s'ouvrir brutalement en cassant un carreau. Voilà, cher Alain, le texte gagnant, donc pour rappel, un texte écrit par Christian et Cloma.
Je vais te remercier parce que ce que tu viens de faire comme exercice n'est pas très facile. Lire 6 textes, comme tu dis, de très bon matin, surtout oui. Des textes qui sont censés être écrits et qui ne sont pas censés être lus. Chapeau.
Je suis soutenue. Oui. Je suis soutenue.
T'es soutenue par un café, j'adore. Dis-moi, le blog Aloïs, qu'est-ce que c'est? Ça donne la possibilité à des gens depuis 20 ans de pouvoir s'exprimer, ça donne la possibilité de pouvoir avoir une vitrine, parce qu'il y a un blog, mais il y a aussi une chaîne de télévision, mais il y a aussi oui. Plein d'autres trucs. Alors.
Oui, donc, comme je disais, Christine Brunet fait partie de l'équipe des éditions Chloé Delis, et c'est une fille très dynamique qui a plein d'idées. Donc voilà, il y a une dizaine d'années, elle a lancé ce blog Aloïs. Et voilà, donc sur ce blog, les auteurs peuvent se présenter, proposer des extraits de leurs livres, annoncer leurs événements, etc. Donc tous les jours, il y a un nouvel article. Et donc voilà pour le blog Aloïs, principalement destiné aux auteurs de Chloé Delis, mais ouvert aussi à d'autres auteurs. Hein, voilà.
C'est important. Hier, j'assistais à une conférence hier matin sur l'utilisation de tous ces réseaux sociaux et tout. C'est important maintenant de pouvoir être publié et pouvoir être vu, on va dire, sur la planète entière.
Bah, oui, Alain. Franchement, je pense. Oui, parce qu'on a directement accès à tout, quoi, à la biographie de l'auteur, son parcours, ses textes, ce qu'il fait, voilà.
Et
Et
c'était...
Aloïs,
Oui, vas-y, vas-y.
comme je te dis, Aloïs est très, très lu, hein. Donc, quand on a des textes qui paraissent sur Aloïs, on est très content. Par exemple, aujourd'hui, je vais être un peu égo. Aujourd'hui, donc, Christine m'a fait, voilà, elle m'a fait la joie de publier 2 fois par mois plusieurs haïkus. Donc, j'ai tout un recueil de haïkus qui paraîtra sur le blog Aloïs. Et donc,
Excuse-moi, excuse-moi,
aujourd'hui,
excuse-moi, excuse-moi. C'est quoi un haïku? C'est important.
un haïku,
Ouais.
ah ben c'est un petit texte japonais en 7 syllabes, en fait.
Ouais. Ah bah attends.
Souvent, en fait, au départ, bon, parce qu'après, évidemment, tout ça a pris de l'extension, mais au départ, c'est sur la nature, la zénitude, l'instant présent, en fait. Voilà.
Et ça s'appelle Aube lunesque. Et c'est ainsi qu'on va
Oui.
terminer
Ah!
cette spéciale. Voilà. Ah oui, c'est une petite surprise.
Oui!
Et j'aime bien parce que
Donc, je
c'est
vois
marqué.
que
Je vais vous lire ce
lire
qui est
en
marqué
italique.
sur le site. Alors, je rappelle, Aloïs, c'est Aloys.me. Okay. Et quand vous allez donc vous allez pouvoir découvrir tous les textes que Karine Land nous a lus, et puis quand vous allez sur les actus, ou même je dirais sur l'accueil, et ben vous allez trouver tout simplement Aublunesque, notre rendez-vous poétique signé Karine Laure. Et ça a été
Oui,
publié
oui.
ben, il y a quelques minutes, c'est tout. Et alors là, on est, comme on dit, on n'est plus dans la catastrophe, on est dans la verdure, on est
Ah oui.
avec la rosée du matin, où il y a une photo qui est très zen, très douce. C'est toi qui as choisi la photo ou c'est elle?
C'est Christine qui a choisi la photo, en
Et je
fait.
trouve
Oui,
qu'elle
elle
symbolise
est.
très très bien, c'est tout.
Voilà, c'est ça. Elle est plus douée pour moi, plus douée que moi pour tout ça, et donc. Elle m'a demandé si ça me convenait, et bien sûr, j'ai dit oui. Et voilà. Et en fait, c'est une belle coïncidence, Alain, parce que je ne savais pas qu'aujourd'hui serait publié Aube lunesque. Donc voilà, c'est 2 fois par mois, mais moi, je ne connais pas le jour, en fait. Donc
Mais moi, je l'avais vu.
voilà.
Je vais être honnête avec toi. Je l'avais vu. C'est pour ça que. Alors, juste un truc. Hein, après avoir eu des textes qui ont été
Oui.
particulièrement fournis, là, on va dire que c'est 3 fois 6.
Comment lis-tu?
3 fois 6. C'est
Ah
souvent.
oui, c'est ça.
Alors, c'est
Oui.
3, 5, 3 quasiment. 3 mots, 5 mots, 3 mots. 3 lignes. Et 6 fois 3 lignes, tout simplement. Voilà, c'est comme ça qu'on pourrait présenter ce texte-là. Et on va clôturer là-dessus, si je peux me permettre. Aube lunesque, par toi-même.
Les navires ancrés tachent bleues près des ports, les marins dorment. Les heures assises sur les bancs des aiguilles, l'attente des riens. D'où vient l'éclair fou? L'horizon sur les montagnes refoule les blancs. Au cœur des forêts, les lutins et les elfes, vrais rêves des forts. Humeur de printemps, les belles sauterelles par-dessus les haies. Amour de moineaux. Sur une longue branche, rayon de soleil.
Waouh!
Voilà.
Ça te...
Mais écoute, Alain, après les catastrophes climatiques, là, ça détend quand même un petit peu, hein.
Exactement, tout à fait. Et là, c'est quoi? Tu rentrais du travail, tu t'es retrouvé au milieu d'un champ, tu t'es dit, tiens, je vais me mettre à écrire ça. Parce que là, c'est.
Mais écoute, je voulais écrire des haïkus et voilà, je me souviens d'un printemps où j'ai pris un cahier et quand je faisais mes balades, oui, j'écrivais, voilà. Ça s'est passé comme ça.
Bah écoute, moi je vais te remercier parce que là,
Ben, c'est moi qui te remercie, cher Alain.
moi je me suis régalé et puis c'est toujours un plaisir de te retrouver et puis bah, plein de bonnes choses. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour cette fin d'année? Bonne santé avant tout.
Ben, écoute, je pense que c'est la première chose, parce que si on n'a pas la santé, on est coincé pour tout.
Exactement, tout à
Donc,
fait.
ouais, je crois qu'il faut être reconnaissant quand le matin, on peut se lever en bonne santé. Et en plus, si on a Alain qui vous téléphone, là, c'est...
En tout cas, merci d'accepter parfois ces trucs complètement inattendus. Enfin, c'est le principe de Direct en jeu, la radio insolite. On n'est pas encore en train de boucler l'année 2021, mais autant dire que le côté authentique, le côté vrai, le côté sincère, tu en es bien symbole là-dessus. Et puis, le côté parfois de faire des choses que d'autres ne feraient pas. En tout cas, c'est super. Merci à toi, en tout cas.
Voilà, merci Alain.